Tout démontre que les Français l'ont décidé. L'avenir de la France passe par des changements profonds, une société plus fraternelle, des citoyens plus libres.
Radio Campus, 93.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Aujourd'hui, dans ce Univox, nous allons nous pencher sur une question bien épineuse. Que doit être l'écologie de demain? Et surtout, comment elle doit être articulée à l'échelle individuelle? Bien entendu, nous ne pouvons pas dresser une liste exhaustive de solutions à cette question, mais nous verrons au travers d'une initiative étudiante locale comment la solidarité peut faire rentrer la notion d'autonomie alimentaire dans tous les foyers. Lorsque l'on regarde les chiffres, c'est assez marquant. Lors d'une étude menée en juillet 2021 par le site Statista, 58% des répondants disaient posséder un jardin privatif, tandis que c'est seulement 7% d'entre eux qui déclaraient participer à des jardins collectifs. Le jardin individuel est encore aujourd'hui préféré par les Français. Nous nous sommes donc rendus dans la ville de Poitiers pour interroger les habitants et habitantes sur leurs habitudes de jardinage.
Est-ce que vous avez un jardin ?
Oui, chez mes parents, mais pas à Poitiers.
Chez mon père, j'ai un jardin, mais pas ici parce que je vis en appartement.
Il y a des fleurs, des arbres et des herbes aromatiques. C'est souvent qu'ils m'envoient au fond du jardin pour récupérer les herbes aromatiques.
Oui, je plante des légumes, je plante des salades, des tomates, toutes sortes pour me nourrir.
Voilà, c'est mon écologie à moi.
Non. Je vis en HLM, en immeuble.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ?
Pas tant que ça, parce que je suis une grande randonneuse qui aime marcher. Et quand je vais chercher la nature, j'y vais en balade, en fait. Donc, je peux pas dire que le jardin au quotidien me manque, mais par contre, j'aurais du mal à ne pas côtoyer d'espace vert du tout ou pas de nature. Voilà, mais c'est plus en balade, en randonnée.
Oui, ça me manque parce que c'est agréable de pouvoir aller dans un espace extérieur, mais privé, sans être confronté aux autres, quoi. Et ça permet de sortir un peu de tout ce qu'on fait à l'intérieur et de pouvoir respirer un peu, quoi.
Un jardin, c'est juste le bonheur, en fait.
Univox.
La dimension individuelle, récréative, voire relaxante du jardinage est bien présente chez les personnes ayant accès à un jardin régulièrement. Mais les initiatives individuelles peuvent parfois amener un aspect solidaire. Dans l'interview qui va suivre, il sera question d'une initiative étudiante solidaire et écologique. On découvre ça tout de suite.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Je reçois donc en plateau Coralie, Marion et Aurélien. Vous êtes étudiants et vous avez décidé de monter un projet qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai nommé Aromatix. Cultiver des plantes aromatiques dans votre garage pour les distribuer plus tard aux étudiants et au personnel de l'université. Une action noble que nous allons découvrir ensemble. Pour commencer, comment vous est venue cette idée-là ?
Alors ça, c'est plutôt drôle. Après la réunion de projet de rentrée de L3, on s'est retrouvés et on a balancé nos idées tous ensemble. Et j'ai imposé en fait mon projet parce que je le trouvais bien.
Et du coup, ce projet, c'était un projet de troisième année, donc de licence, donc dernière année. Et on devait monter un projet pendant cette année-là. Et du coup, on a choisi de faire le projet Aromatix. Donc c'est vraiment un projet universitaire basé sur une année.
Je suis allé à l'essentiel, c'est-à-dire, je voulais pas un projet qui ne prennent trop de temps. Et je voulais surtout, en fait, un projet qui soit intéressant. Je voulais vraiment aller un petit peu au-dessus de stage au projet de pré-professionnalisation de licence 3. Découvrir, en fait, aller toujours plus loin.
C'était pas juste un projet qu'on a choisi parce qu'on avait envie d'apprendre à planter des trucs. C'est parce qu'on s'y connaissait déjà un peu, de base. Et on avait de quoi, en fait, rebondir si on avait des problèmes en termes de terre, en termes de peau, etc.
Quelles plantes aromatiques est-ce qu'on peut retrouver dans votre plantation ?
Les plantes qui ont été décidées et qu'on pense que... Enfin, qu'ils ont simplement été décidées, c'était la menthe, le basilic, la ciboulette et le persil. Mais suite à diverses problématiques qu'on a rencontrées au fur et à mesure du projet, on pense retirer malheureusement une des plantes, c'est la menthe, qui est trop compliquée à faire pousser rapidement, trop compliquée à avoir une bonne feuillaison, c'est le mot je pense, pour pouvoir juste l'utiliser simplement et la consommer au moment où on va la distribuer.
Combien vous avez de plants ?
Alors c'est des chiffres pas tous les mêmes, mais globalement on a essayé de faire 25 de chaque. Mmh. Donc on a 27 pots de basilic, on en a 34 de persil et 34 de ciboulette pour l'instant qui sont en train de pousser.
Et pourquoi alors vous avez choisi ces plantes aromatiques-là en particulier ?
Principalement, je pense, parce que c'était les plus connues, celles dont on s'en sert le plus. Que ça va être dur de trouver quelqu'un qui veut absolument de l'aneth dans ses plats, en fait, c'est ultra compliqué.
Comment est-ce que vous avez eu les graines ? Est-ce que vous les avez simplement achetées ou est-ce que vous les avez récupérées quelque part ?
Alors, on a été sponsorisés. On a été, en tout cas pour les graines qu'on a plantées déjà, on a été sponsorisés par des connaissances, des amis de la famille, en expliquant le projet, etc. Il y a certaines personnes qui sont vraiment intéressées là-dedans. Et ils nous expliquent bien que, voilà, ils veulent bien nous aider, etc. Du coup, on a eu un paquet de graines de basilic, de persil et de ciboulette. Et deux pots de plants de menthe, en fait, pour essayer de les démultiplier, sauf que ça n'a pas fonctionné. Mais concrètement, on a été sponsorisés par des connaissances.
Parce que vous avez, du coup, essayé de faire de la communication sur votre projet, c'est ça ?
Oui, beaucoup.
Oui. Du coup, en commençant ce projet, on s'était dit, on va trouver des sponsors. On va trouver des sponsors parce que c'est important, parce que ça montrera que le projet est intéressant. Et surtout, parce qu'on n'avait pas envie de commencer à vendre des crêpes, voilà, pour récupérer de l'argent. On a participé à des événements comme le Jardin d'hiver qui a eu lieu à la MDE de l'Université de Poitiers le 6 décembre. Et ça nous a énormément plu, ça nous a énormément offert des opportunités, ça nous a offert énormément de belles choses. Et tout simplement, grâce à ça, je pense que le projet a pris une toute autre dimension.
À combien de personnes vous pensez distribuer les plantes aromatiques ?
On a fait un sondage et on avait à peu près 60 réponses. Donc globalement, il y a une soixantaine de personnes qui seraient intéressées. Sachant que les trois quarts des personnes qui ont répondu au sondage veulent principalement des plantes de manière individuelle, pas du tout toutes les plantes en même temps. Et globalement, les plantes qui leur plaisaient le plus, c'était vraiment le basilic et le persil.
Donc on va passer à un sujet un peu plus global. C'est quoi votre vision, peut-être soit personnellement, soit au nom de l'association que vous représentez, c'est quoi votre vision de l'écologie en général, de ce qu'on pourrait appeler de l'écologie ?
Alors concrètement, en étant en écologie et biologie des organismes, on nous a souvent rabâché, surtout avec nos professeurs, de bien différencier un écologue d'un écologiste, parce qu'un écologiste, c'est un politique. Qui travaille pour l'écologie. Et un écologue, c'est un scientifique qui travaille pour l'écologie. C'est D'accord. vraiment deux choses totalement différentes et c'est quelque chose qu'on nous a pas mal rabâché, si je ne me trompe pas, hein, à bien distinguer les deux et bien faire attention à différencier les deux. Alors, en politique, ça va être compliqué.
Alors, personnellement, je trouve que c'est dommage que le terme écologie soit un terme politique. Je trouve que ça devrait être normal que l'écologie soit un domaine scientifique, avec donc une discipline, avec des gens qui réfléchissent réellement, qu'il n'y ait pas besoin que ça rentre dans le domaine politique.
Ouais, c'est ça. Globalement, c'est ça.
Parce que je trouve que c'est normal. En fait, c'est très dommage qu'on soit obligé d'avoir en politique des gens qui représentent ce mouvement, alors que ce doit être un mouvement naturel. C'est-à-dire que personne, demain, se présentera à la présidentielle en disant « Mon but, c'est pour que en 2024, la Terre soit brûlée. » Personne ne dira ça. Personne ne dira « Mon but, c'est que dans 50 ans, nos enfants ne peuvent plus vivre. »
Oui, ça devrait être quelque chose de naturel chez chaque citoyen et chaque individu sur Terre, totalement, en fait. Concrètement, on vit sur une seule planète, il n'y en a pas d'autres. Enfin, dans la théorie, dans la pratique, il y en a forcément d'autres. Mais on n'en a qu'une seule pour l'instant. Et concrètement, dans les 100 prochaines années, on n'en aura pas une deuxième. Donc l'intérêt, ça serait plus de la préserver que de la détruire.
Ok, et si on recentre un petit peu, donc vous, votre action, elle est pas forcément, c'est pas forcément une action isolée. Vous avez envie de montrer que c'est possible, que tout le monde peut cultiver des plantes aromatiques chez soi et s'en servir au quotidien, c'est bien ça ?
Ben d'un côté, oui, parce que c'est vrai que c'est facile. On a un pot, on a de la terre, on a une plante et on a un peu d'eau et hop, c'est facile, ça pousse. C'est magique et ça fonctionne du feu de Dieu, hein, si on veut dire. Et puis, on peut s'en servir pour manger. Et pour agrémenter les plats.
Et donc pour vous, c'est un projet qui s'inscrit dans un cadre écologique ?
Personnellement, je dirais que ce serait plus dans un cadre de solidarité.
Personnellement, je n'aurais pas la prétention de dire que l'on s'inscrit dans une démarche écologique. Non, c'est un petit projet de solidarité, on essaye de faire mieux, c'est tout.
Est-ce que donc vous avez plutôt une vision... je dirais, individuel de l'écologie. Donc c'est chacun fait sa part et si tout le monde fait un petit peu, eh ben, le monde s'en sortira. Est-ce que vous avez plutôt cette vision-là ?
Concrètement, si on commence tous à faire un petit peu de notre côté, ça va beaucoup, beaucoup changer. Concrètement.
Totalement d'accord.
Les entreprises, déjà, ce sera un bon début. Tout ce qui est les grands pétroliers, les grands bateaux qui transportent des containers, etc., ça consomme énormément de fuel, ça rejette beaucoup de CO2. Ne serait-ce que ça, limiter tout ça et faire peut-être quelque chose d'un peu plus intelligent ou d'un peu plus différent, en fait, tout simplement changer de fuel, en fait, changer de carburant, ça pourrait changer beaucoup de choses. Limiter les émissions de CO2 des grandes entreprises dans l'atmosphère, ça pourrait changer beaucoup de choses. Limiter la destruction de la forêt amazonienne, ça changerait énormément de choses. Essayer de juste de réfléchir un peu, de se poser les bonnes questions et de se dire, bah voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire à ma petite échelle? Bah voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est pas grand-chose, mais je pense que si nous, à notre âge, on est capable de réfléchir à ça, de se dire qu'il y a des enjeux qui sont réels et qui attendent le monde, et qu'on essaye de s'inscrire un peu dans une voie de rétablissement de la belle Terre qu'on a connue il y a des centaines et des centaines de milliers d'années, et ben, ça va peut-être changer un truc.
Après, c'est vrai qu'on a fait les plantes aromatiques dans un but solidaire. Après, c'est vrai que faire des plantes, avoir chacun une petite plante de chez soi, dans son studio, tout ça, ça peut apporter un côté, je ne sais pas, peut-être on peut dire écologique. Ça fait une démarche dans le végétal.
Et donc, qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui veulent se lancer ?
Se lancer dans un potager, il va falloir s'en occuper, il faut l'arroser, il faut désherber, il y a des fois des nuisibles. Tout à l'heure, on avait des...
Il y a quelques jours, on a été infesté par des... on s'est fait envahir par des pucerons. Du coup, c'est pour ça qu'on a perdu la quasi-totalité des plantes, enfin des menthes en tout cas.
Voilà, et donc il y a des nuisibles, il faut les enlever, il faut traiter. Alors, je ne veux pas repousser par mes grands mots, dire faut faire 15 heures par semaine de potager pour avoir un beau potager. Non, si vous voulez commencer, vous pouvez y aller avec une ou deux plantes, voir comment ça marche. Il y a quand même un coût qui est en temps cette fois-ci, et puis en argent. Donc après, ça dépend des gens. Si la personne veut économiser de l'argent, mais elle a un petit peu de temps à dépenser, ça serait une bonne idée pour elle de commencer un potager.
On a, du coup, dans ce que j'avais parlé par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, CO2, etc., il y a souvent les grands pétroliers, les grands paquebots, etc., qui transportent des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, dont on n'en a pas forcément besoin, ou des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, mais qu'on produit aussi en France, en fait. Et concrètement, à la limite, si on veut pas avoir de potager, on peut essayer d'aider en fait juste la production française, tout simplement, en achetant français au lieu d'acheter quelque chose qui vient d'Argentine, quoi. Je suis désolée, les oranges, on en a aussi dans le coin, en Espagne, il y a des oranges, ça existe.
Est-ce que ça va être une simple distribution où vous allez donner donc vos petits paquets aux gens, ou est-ce que vous avez prévu peut-être leur donner une petite fiche avec des idées de recettes ou d'autres trucs un peu travaillés?
Et oui, en fait, du coup, associé aux espèces de plantes aromatiques qu'on va donner, on aura un espèce de petit flyer qui expliquera dans quelles recettes on peut les ajouter. Donc, par exemple, le persil, on peut le mettre dans les pâtes, on peut le mettre avec des pommes de terre sautées, c'est super bon, avec de la viande rouge, etc. Et on explique aussi, en deuxième partie de ce flyer, comment s'occuper de cette plante, parce que c'est important.
Et donc, pour finir, est-ce que vous êtes fiers de l'action que vous menez? Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous faites et de ce que vous allez faire?
Personnellement, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire à partir de juste nos idées. C'est-à-dire que le départ, c'est le projet demandé par l'université, mais on est allé beaucoup plus loin. Et ça, j'en suis très fier. C'est-à-dire que aujourd'hui, le projet, théoriquement, j'aimerais dire qu'il pourrait réellement tenir tout seul. Et ça, c'est quelque chose à être fier.
Bah, c'est vrai que c'est un projet solidaire. C'est vraiment d'aider les étudiants dans leur démarche, dans des démarches à chercher à cuisiner vraiment local, tout ça. Donc, je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes. Et même si c'était à la base juste pour nos études, c'est vrai que c'est un projet qui allait beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Donc c'est vraiment, ouais, c'est une fierté, on peut le dire.
Il en faut du courage. Il en faut de la volonté pour mener à bien des projets qui viennent de nulle part, qui viennent de sous terre, qui viennent du fond de la tête de quelqu'un. Il en faut vraiment de la motivation. Et je pense qu'on peut dire qu'on l'a eu.
Suite à cette interview, nous avons voulu savoir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Nous vous proposons de venir avec nous à la découverte d'un petit village de la Vienne, j'ai nommé Froze, et plus précisément dans le garage d'Aromatics. Juste avant, et le temps qu'on chauffe la voiture pour les 30 minutes de trajet qui séparent Froze de Poitiers, on vous passe un morceau de l'artiste Axem avec la chanson Tell Me.
Me, I promise he'll make it right. Maybe if I change it, we won't be here. You always told me I'm not easy going. Forgive my mistakes, and I still have weakness. You will see it will please you. You and me, it was written. Of us, tell me again. I spend my days giving in. You just go, use it to win. Excuse me for that, it's all over. I'm getting up, I treat myself. I should be keeping you near me. I'm toxic to you. And I love each other so much. How did we get there? How to forgive us? Baby, tell me what I should have done. Maybe I deserve it. Baby, tell me it's a bust of us.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. On est parti pour Froze un dimanche après-midi. Le soleil était au rendez-vous et nous attendait dans le désert brûlant qu'est la Vienne. Oui, bon, j'en fais peut-être un peu trop. Toujours est-il qu'on a fini par arriver à destination. Salomé, Coralie et Aurélien nous attendaient dans la maison familiale de ces deux derniers. Et le chien. Ils nous ont gentiment ouvert la porte de leur garage et nous ont décrit un peu les lieux.
Bah, disons qu'il y a du coup, un sol en béton et il y a des espèces d'armoires en bois qui sont ouvertes. Et soit on les pose sur les bas des armoires, soit on les pose à même le sol pour pas prendre trop de place. Et puis voilà. Et de temps en temps, on les observe, on va les voir, on va voir comment ils vont et tout. Mais comme Aurélien il a dit, ça prend à peu près 10-15 minutes pour les arroser, mais c'est vrai que faire le tour de chacun, voir comment ça évolue, et tout, etc. Par exemple, pour les ciboulettes, ça se voit qu'il n'y a rien qui pousse. Pour l'instant, entre guillemets, on croise les doigts. Enfin, d'un côté, il est juste là, en fait. Juste là, un tout petit truc tout minuscule. Et en fait, on se dit, ça ne va jamais être... Ouais, exact, j'avais pas vu en plus. On se dit que ça ne va jamais être comme on l'espérait pour le jour. Et puis, au fur et à mesure, on voit des trucs qui poussent, donc on est super contents.
Au début, on n'avait pas mis qu'est-ce que c'était. Enfin, qui était quoi du coup. Et on s'est retrouvés un peu démunis quand ils ont commencé à pousser, on était en train de se dire bah du coup. Non mais après du coup, vu qu'on a refait des nouvelles semis, ça c'est des nouvelles semis, ça c'est des nouvelles semis. Les deux là, les trois dans le coin, c'est des nouvelles semis. Et quand ils ont commencé à pousser, vu qu'on avait déjà précisé qu'est-ce que c'était, on s'est rendu compte précisément que les anciennes, c'était ça.
En gros, de base, du coup, on avait fait 18 semis de chaque espèce de plante dans des serres pour voir comment ça allait prendre, si ça allait prendre rapidement, etc. C'était vraiment un test. Et on a du coup eu ces semis-là, qui sont ici, les deux là et celle-là. Bon, du coup, elles sont un peu en galère sentimentale et de vie sociale, mais bon, ça va le faire. Hein. Et je me suis rendu compte un peu en retard qu'elles étaient en train de se noyer parce que j'ai mis beaucoup trop d'eau. Et du coup, c'est pour ça que je les ai toutes séparées, je les ai mis dans des pots individuels. Les pots, c'est pour tout le monde en fait. À Jardiland, c'est par exemple à Jardiland de Poitiers, on a une espèce de grande armoire où il y a plein de pots que tout le monde peut venir récupérer. Donc, c'était pas du tout en sponsorisation avec eux. Et les semis, ça a été une sponsorisation par des connaissances. On a observé que les plantes qui étaient à l'ombre, qui poussaient à l'ombre, poussaient trois fois plus vite que des plantes au soleil, ce qui est vachement étonnant d'ailleurs. Mais on les ramène souvent à la lumière parce que sinon elles jaunissent. Enfin, ouais. Elles poussent mais elles restent jaunes. Il n'y a pas de chlorophylle, quoi. Mais c'est pas un problème en soi.
Les étudiants nous ont expliqué comment ils comptaient s'y prendre pour la distribution de leurs aromates sur le campus de Poitiers.
Je suis déjà en communication avec les responsables, en fait. Et donc, j'ai envoyé un mail pour demander comment ça se passe. Et apparemment, donc, on a une fiche à remplir pour où on veut les distribuer, si on veut les faire payer ou quoi que ce soit. Donc, il y a une fiche. Je dois la recevoir, et bon, c'est à suivre.
Puis on en avait comme une idée un peu, hein, une espèce de vente sauvage, en fait, à l'arrière de la voiture, ça aurait été super cool, mais vu qu'on sait pas si on a le droit, on attend quand même d'avoir les autorisations pour faire. Mais c'est vrai que le faire à l'arrière d'une voiture, un peu à la sauvage, ça pourrait être super cool.
Ils nous ont aussi fait part de certaines difficultés qu'ils avaient rencontrées.
Alors en fait, du coup, on a été sponsorisés du coup de deux pots de pieds de menthe, en fait, qu'ils étaient un peu ratiboisés parce que c'était l'époque en décembre, on coupe les menthes pour qu'elles repoussent bien en printemps. Et du coup, on les a récupérés, on les a ramenés, on a commencé à les faire pousser un peu. Et puis, de nulle part, on s'est retrouvés avec une invasion de pucerons. Donc, de peur qu'elles viennent détruire un peu tout ce qu'on a fait et nos plantes perso à nous, on les a vraiment mis dehors cette fois-ci, genre dehors. Et pour être honnête, je pense que la moitié n'a pas survécu au froid. Mais il y a des petites pousses qui sont là quand même. Il y en a qui commencent à repousser un peu et reprennent du poil de la bête, mais je pense pas qu'elles seront prêtes. Disons qu'en gros, je les ai séparées en fait, je les ai divisées du pied mère. Et en les divisant du pied mère, c'est beaucoup plus fragile en fait, tout simplement. En étant fragile et en ayant du moins deux la nuit, ça le fait pas, quoi.
Et surtout, un gros problème durant leur projet, la distance.
C'est l'implication en fait des autres membres, tout simplement. Voilà. Parce que Marion et Salomé, ils sont sur Poitiers même. Et étant donné que c'est ici qu'on fait pousser les plantes parce qu'il y a plus d'espace, ça pose un énorme problème parce qu'ils ne sont pas impliqués directement dans la pousse des plantes. Et c'est un problème, ça impacte le projet en soi. Mais de l'autre côté, ils font aussi quand même plein de travail en termes de tout simplement sur les comptes rendus qu'on doit rendre pour le projet, etc. Tout ce genre de travail, ils travaillent bien là-dessus, ils travaillent beaucoup. Donc ça impacte le projet que partiellement, mais c'est vrai que ça impacte beaucoup sur cet aspect de culture des plantes. On se rend compte qu'on fait des erreurs, ça arrive à tout le monde, et c'est le principal, c'est juste de totalement essayer de s'en sortir et d'apprendre tout simplement.
Nous avons donc vu au travers d'un exemple d'initiative solidaire comme l'écologie de demain peut être organisée. Que ce soit à l'échelle individuelle pour le plaisir, ou bien à l'échelle d'un projet étudiant tel que celui d'Aromatics. C'est au travers de ces initiatives que la page de l'écologie de demain s'écrit. Mais sommes-nous tous vraiment responsables de l'écologie de demain ? La destruction engendrée par certaines grandes entreprises est-elle égale à l'esprit d'entreprendre une petite initiative ? Dans ce combat, c'est le garage contre l'usine. En valorisant la solidarité et les projets à l'échelle individuelle, nous pouvons peut-être être à même de construire un monde nouveau.
N'y comprendra rien à la loi
qui nous foutait la frousse. Et les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu en plateau avec nous répondre à mes questions. Et puis ben, on vous souhaite tout le bonheur du monde pour la suite de ce projet. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Participative,
indépendante, Radio Campus,
faites votre radio.
Des émissions thématiques ou musicales, tous les soirs à partir de 18h et le week-end sur le 93.3.
Retrouvez toutes les émissions de Campus en podcast sur campus-clermont.net.